Il est 7h, bon réveil. Votre matinale info, c'est jusqu'à 9h avec Nikos Aliagas.
Hélène Zelani est dans la place. Bonjour Hélène.
Bonjour Nikos, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin.
La prise d'otage à la prison de Condé-sur-Sarthe a pris fin dans la nuit. Un détenu retenait deux surveillants qui ont été libérés sains et saufs. Les précisions de l'envoyé spécial d'Europe 1 Mathieu Bock dès le début de ce journal. Rendez-vous à 15h dans l'hémicycle, jour J pour Édouard Philippe qui prononcera son discours de politique générale.
Et à 8h15, l'invité d'Audrey Crespo-Mara sera le maire de Nice, Christian Estrosi.
Et puis le bac, ça se rapproche. Première épreuve la semaine prochaine, le 17 juin. Certaines municipalités chouchoutent les lycéens en pleine révision. La prison de Condé-sur-Sarthe dans l'Orne, de retour au cœur de l'actualité. Trois mois après l'agression de deux surveillants par un détenu radicalisé, elle a été le théâtre d'une prise d'otage. Rien à voir avec la radicalisation cette fois. Un détenu qui réclamait son transfert a retenu deux surveillants pendant plusieurs heures. Mathieu Bock, vous êtes à Condé-sur-Sarthe pour Europe 1. Tout a commencé un peu avant 20h.
Oui, au moment du dîner, l'homme, un détenu de 35 ans, Francis Dorfer, distribuait lui-même le repas aux autres prisonniers quand il a profité d'un moment d'inattention des surveillants pour sortir un pic qu'il avait lui-même fabriqué et pour prendre en otage les deux membres de l'administration pénitentiaire, un gardien expérimenté et une jeune stagiaire. Il les a enfermés dans sa propre cellule. Il a ensuite réclamé des médicaments et un transfert vers une autre prison, plus proche de sa famille, dans l'est de la France. Ce prisonnier, qui a été condamné à 30 ans de prison pour le meurtre de son codétenu en 2003, n'en est pas à son coup d'essai. C'est la sixième fois qu'il prend en otage des surveillants et à chaque fois pour exiger un transfert. Hier soir, la négociation a duré près de 5 heures. Des équipes ERIS spécialisées dans les mutineries ont été appelées en renfort. Plusieurs hélicoptères se sont même posés à proximité de la prison et l'homme a relâché ses deux otages un par un en fin de soirée. Il a ensuite été transféré à bord d'un convoi ultra sécurisé au commissariat d'Alençon où il a été placé en garde à vue.
Mathieu Bock à Condé-sur-Sarthe pour Europe 1.
À Lorient, la traque se poursuit.
Trois jours après le drame, un enfant tué, un autre dans un état critique, le chauffard et sa passagère sont toujours en fuite. Hier, la police a diffusé un appel à témoins avec leurs photos et leurs signalements. Hélène Terzian, vous avez des informations sur le profil de ces deux fuyards.
Ils semblent décidés à prendre la fuite ensemble. Lui, jeune homme de 20 ans sans emploi, déjà condamné pour des faits de conduite sans permis. Elle, 21 ans, vendeuse dans une boutique de vêtements. En couple pendant 2 ans, selon des proches de la jeune fille, ils ont vécu une relation tumultueuse et seraient même séparés depuis plusieurs mois. De quoi peut-être expliquer les doutes de cette ancienne camarade de collège de la passagère.
De ce que je connais d'elle, c'est une fille droite et je ne sais même pas ce qu'elle faisait avec un garçon comme ça de base. Bah, une fille comme ça qui irait faire des problèmes et puis des délits comme ça, quoi. Donc oui, pour moi, elle est juste complice dans l'histoire maintenant. Elle a préféré continuer avec son amour qu'elle aime et non.
Mais fuit-elle de son plein gré? Selon le cercle d'amis proches de la jeune fille, le chauffeur aurait toujours une forme d'emprise sur elle. Des amis décrivent un compagnon possessif. Certains évoquent même des gestes violents. Une relation qui interroge et qui nourrit l'inquiétude des proches. Famille, amis, personne n'arrive à les contacter ni à les géolocaliser sur les réseaux sociaux.
Hélène Terzian à Lorient pour Europe 1. Il est 7h04.
C'est le grand jour pour Édouard Philippe. Il prononce aujourd'hui son discours de politique générale à l'Assemblée nationale.
Oui, le deuxième après celui de juin 2017. Le Premier ministre doit préciser les orientations données par le président Macron après le grand débat. Qu'attendent les députés de la majorité? Réponse avec ce reportage de Virginie Riva.
Avec ce discours, qui doit marquer l'acte 2 du quinquennat, les députés attendent surtout un calendrier clair, des priorités. Ils ne connaissent pas encore les tout derniers arbitrages. Pour Jean-Baptiste Djebari, il faut surtout un volet social important.
Les textes évidemment sur la retraite, sur la dépendance, les textes bioéthiques, c'est important pour la majorité d'avoir un cadre qui soit maintenant clarifié et précis.
Mais la priorité absolue pour la députée Barbara Pompili, ex-Europe Écologie Les Verts, c'est l'écologie.
Évidemment, de mettre la question écologique au premier rang des priorités, avec tout ce que ça implique, c'est-à-dire des politiques publiques cohérentes, des annonces, et puis aussi l'accompagnement de tous ceux qui peuvent avoir du mal dans la période.
Beaucoup attendent surtout de scruter le vote des parlementaires. Le Premier ministre engage un vote de confiance à l'Assemblée aujourd'hui et fait rare un vote simple demain au Sénat. Le député Laurent Saint-Martin attend une clarification de chacun dans le contexte de la recomposition politique en cours.
Ça va être aussi intéressant de voir quels vont être les votes pour la confiance et puis ça sera aussi intéressant de voir ce que les sénateurs pensent de ce discours de politique générale.
Une façon de compter les troupes, ajoute ce député.
Virginie Riva, le discours doit commencer à 15h dans l'hémicycle, juste avant Édouard Philippe déjeunera avec Emmanuel Macron pour peaufiner les derniers détails.
Europe 1.
Dans un instant, la suite du journal avec Hélène Zélani. Les Bleus ont vengé la claque subie en Turquie. Victoire hier soir en Andorre. 4-0. A tout de suite sur Europe 1.
Il est 7h07, votre matinale info, Nico Saliagas.
La suite du journal avec Hélène Zélani. Ça y est, c'est la quille pour l'équipe de France de foot qui disputait hier son dernier match avant les vacances.
Et les champions du monde terminent sur une note positive. Ils sont allés battre Andorre hier soir. 4-0, match de qualification pour l'Euro 2020, rencontre à laquelle assistait Cyril de la Morinerie.
La défaite en Turquie est déjà oubliée. Les Bleus ont montré un tout autre visage, conquérant et combatif. Certes, ce n'était qu'Andorre, mais les Français ont mis cette fois beaucoup de vitesse dans le jeu. Les 7 changements opérés par Didier Deschamps dans l'équipe de départ ont produit leur effet. La défense, totalement repensée, avec notamment la première sélection de Clément Lenglet, n'a jamais été inquiétée. D'où la satisfaction du capitaine Hugo Lloris.
Malgré le contexte, on a su se rendre le match facile en marquant très vite dans ce match. Je pense qu'on a été pro, on a montré beaucoup de sérieux et donc c'est bien, on a montré une bonne image de l'équipe de France.
Une belle soirée dans le froid andorran, en particulier pour 3 joueurs de l'équipe de France qui ont marqué hier soir leur premier but en bleu. Florian Thauvin, Kurt Zouma, mais aussi l'attaquant de poche, Wissam Ben Yedder.
C'est toujours une sensation énorme. Je me souviendrai toujours de ce premier but, ça c'est une certitude. C'est un rêve d'enfance. Mais encore une fois, voilà, on devait se rattraper aussi du match de la Turquie et on a fait le job.
Les Bleus ont surtout repris la tête de leur groupe de qualification pour l'Euro 2020 après la défaite de la Turquie en Islande. Les champions du monde sont partis en vacances, l'esprit libéré. Andorre, Cyril de la Morinerie, Europe 1.
Quant aux filles, elles affrontent les Norvégiennes ce soir dans le cadre du premier tour du mondial. Match à suivre évidemment sur Europe 1, soirée spéciale à partir de 20h. À noter aussi l'incroyable score des Américaines championnes en titre. Elles ont battu les Thaïlandaises hier soir 13-0.
On continue avec les révisions du bac ou le foot. Il faut choisir.
Oui, le compte à rebours a largement commencé. Premières épreuves lundi, les candidats choisissent souvent le calme des bibliothèques pour mieux se concentrer. De nombreuses communes leur proposent d'ailleurs d'en profiter en nocturne. À Fresnes, dans le Val-de-Marne, des sessions de révision sont même organisées avec un programme aux petits oignons, Virginie Salmen.
À l'intérieur de la bibliothèque, les salles de travail vitrées sont pleines. Le directeur, M. Beaufils, a donc fait installer des tables sous des barnums dehors pour gagner 40 places.
C'est des sortes de tentes comme on a dans les fêtes foraines, quoi. Il pleut, mais ça leur permet de réviser sous la pluie en étant tranquillement à l'abri.
Stacy et Licia révisent ensemble l'histoire géo.
Le 6 août 1941, les États-Unis, ils ont utilisé quoi? À ton avis, si je te parle du Japon et tout, c'est l'arme?
C'est pas l'arme nucléaire ?
Oui.
Voilà, l'arme nucléaire. Mais contre la guerre.
À Fresnes, c'est un programme 4 étoiles. Il y a aussi des profs qui viennent aider les élèves bénévolement. Une sophrologue pour faire baisser le stress. Et à 14h, la pause sucrée concoctée par Madame Daragus.
On prépare des thermos de café, de thé, avec des pommes à disposition.
Vous les chouchoutez en fait ?
Plus que ça même, je dirais. Les dorlotes.
L'opération Révision 2019, ça dure jusqu'à ce week-end, à la veille de la première épreuve, la philo.
Virginie Salmen, spécialiste éducation d'Europe 1, on leur souhaite bon courage aux futurs bacheliers.
Merci beaucoup. Vous avez eu combien au bac en philo ?
12.
Ça ne m'étonne pas de vous. Non, je plaisante, mais 12, c'est pas mal quand même, franchement. Et
ça
en maths, Hélène Zélani ?
Alors, je ne me rassemblais plus.
Merci beaucoup. C'était le journal de 7h avec Hélène Zélani.